réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai été baptisée, les communions, la confirmation, le catéchisme. Et ensuite, suite au divorce de mon oncle et de ma tante, j'étais ado, je sais pas, 13, 14 ans. Et on est allé donc dans une communauté demander la prière. Et là, je m'approche du frère et de la sœur et je dis, ben voilà, je viens demander la prière pour mon oncle et ma tante et mes deux cousines. Et là, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Puis on y est allé régulièrement. On peut presque palper l'amour fraternel. On se sent bien, tout le monde est souriant, tout le monde nous bénit. Et de fil en aiguille, voilà, on met un pied dedans, on fait des groupes de jeunes, des camps de jeunes. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée, oui, aller à la messe le dimanche, à intégrer le groupe de musique, ainsi de suite. Et puis, je suis rentrée après dans un groupe de jeunes qui se réunissait tous les mercredis, donc dans une cellule de jeunes. J'y passais, en fait, beaucoup de temps. Et puis, automatiquement, je me suis posé la question, est-ce que je serais pas appelée par Dieu? J'avais passé mon concours d'infirmière que j'avais eu. Donc du coup, j'ai envoyé une lettre de démission à l'hôpital et puis je suis rentrée directement. J'avais 20 ans. Mes parents n'étaient pas très chauds. Ils me disaient, mais réfléchis, tu viens d'avoir quand même ton concours infirmier, mes grands-parents aussi. Puis tu vas t'enfermer, on te verra plus. La vie ne sera plus pareille alors qu'on est une famille assez unie. Oui, ça a été difficile, je pense, pour eux, de ce point de vue-là, le fait de ne plus se voir comme avant. Je me suis dit, ben, si Dieu existe et qu'il m'appelle, c'était pareil, toujours la quête de l'absolu. Oui, ben, je vais tout donner tout, totalement, c'est-à-dire le vœu de pauvreté, c'est-à-dire j'ai vendu ma voiture, j'ai fermé mon compte en banque, on n'avait plus rien. Les habits, enfin tout, concrètement. Au niveau sexuel, pas de vie de famille, pas d'enfant, pas de vie de couple. J'y suis restée 7 ans. 7 ans, donc, coupée du monde. On nous obligeait à faire des demandes de pardon 3 fois par semaine, c'est-à-dire qu'on se réunissait en rond et on se disait, ben, par exemple, ça pouvait être je demande pardon parce que je t'ai fait la tête aujourd'hui, ou je te demande pardon. Mais on était obligé, dans cette communauté, de demander pardon. Parce que si on ne le faisait pas, une fois ça passait, deux fois ou trois fois, on pouvait se dire, tiens, de suite elle était suspecte, elle n'est pas ouverte au Saint-Esprit, il faut qu'elle demande la prière, tu n'es pas allé te confesser. On était très surveillés sur ce niveau-là. Je faisais confiance, mais à chaque fois, il y a toujours dans la conscience quelque chose qui me disait, mais est-ce que c'est ça ou pas? Mais la prière, la confiance me faisait dire, bon oui, tu as appelé. Et vers 25 ans, j'ai prononcé mes voeux perpétuels. Dans ma tête, je me disais, bon, ben ça y est, je m'engage pour toujours. Une semaine avant, ça allait pas du tout, je me souviens, je me disais, non, c'est pas ça, c'est pas possible. Et ben, j'ai eu la demande de prière. On m'a imposé les mains sur les épaules pour invoquer le Saint-Esprit. Donc après, le jour même, j'étais contente, on va dire, de le faire. 2 ans après, je me disais, une fois de plus, je crois que c'est pas ça, il faut que je parte. Et c'est vrai que dans ma tête, j'avais commencé à faire mes valises. Et puis le prêtre, donc responsable de la communauté, m'a dit, bon, on va demander la prière. Et puis j'ai dit, non, c'est pas ça, je vais partir. Voilà, c'est fini pour moi, je m'en vais. Et là, il m'a enfermé à clé. Il m'a tendu un chapelet dans une pièce, dans une chambre qui était... Ce sont des chambres pour accueillir des personnes extérieures qui ont envie de passer une semaine de repos. Voilà. Il m'a dit, tu fais ton chapelet et tu sortiras quand tu seras plus calme. Alors j'étais énervée, je dis mais tu vas m'ouvrir, je suis voilà. Et il a enlevé aussi, je me souviens, tous les draps pour pas que je sorte par la fenêtre avec les draps. Et ça s'est fini à la fin de la journée, donc sans boire, sans manger, avec rien que le chapelet dans la main. Et je me suis dit si je veux sortir, Le seul moyen, c'est de dire, ben oui, ok, je demande pardon, je vais rester, je ne recommencerai plus, voilà. Et finalement, je suis restée 3 ans de plus, du coup, ou même plus, 5 ans de plus. On était plusieurs frères et sœurs à vouloir partir et on s'est dit si on le dit, ben on va se faire enfermer, donc c'est pas la peine. Donc on a commencé à chercher des personnes de confiance parmi les paroissiens et je crois que oui, on a pendant un mois on a fait semblant. Donc c'est très difficile hein, de mener une comment dire une double vie parce qu'on a les confessions, c'est-à-dire des fausses confessions, parce que si on ne se confesse pas, on se fait repérer. On a, je vous rappelle, 3 demandes de pardon par semaine, il faut faire semblant. Donc on a comme un masque, on demande pardon pour des choses idiotes. On est obligé de garder toujours le sourire, parce que si on ne va pas bien, qu'on fait la tête, qu'on a le visage triste, on se fait repérer de suite. Et ça a été, je crois, le plus difficile à vivre pendant ce mois, d'avoir un double visage. Et ensuite, eh bien, on a demandé, donc, on s'est dit le plus facile pour partir, ce sera pendant la messe. On a donné les clés du presbytère à des paroissiens qui nous ont pris le peu d'affaires, c'est-à-dire les quelques habits qu'on avait. On a vécu tout le dimanche en faisant semblant et on s'est dit on partira le lundi soir après la répétition de chant quand tout le monde sera couché. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, le problème c'était que les escaliers craquaient en bois, donc il a fallu faire très très doucement. Et je sais plus, c'était 11h du soir ou minuit, ces paroissiens nous attendaient. Alors c'était folklorique, ils avaient mis des perruques parce qu'on se... ils avaient peur qu'on les reconnaisse. Et puis ils nous ont accueillis très gentiment chez eux. Et puis ils nous ont ramenés après dans nos familles le lendemain. J'étais confiante et en même temps j'avais très très peur de me faire prendre, surprendre et qu'on me renferme. Ça oui. On est resté enfermé, je crois, plusieurs jours sans sortir, sans voir personne. On avait peur de sortir puisqu'on avait vécu 7 ans enfermé. Donc, on a vécu une semaine complètement enfermé. On n'a pas du tout profité de la liberté. On avait peur qu'ils nous retrouvent. Et puis après, je crois, la première chose qu'on a acheté, c'est un téléphone portable. Et puis là, on se dit, ben voilà, j'ai 27 ans, j'ai 28 ans, j'ai aucun diplôme, j'ai plus rien, j'ai pas de compte en banque, j'ai rien. Et pourtant, il faut travailler, et donc il faut s'y mettre, quoi. Je dis, ben, je vais repasser le concours d'infirmière. Et en attendant, ben, je me suis inscrite dans une agence d'intérim, j'ai fait du petit boulot. J'avais le RSA pendant quelques mois. Et heureusement, j'ai eu à nouveau le concours d'infirmier. Le responsable de la communauté a téléphoné à mes parents. Et mes parents, bon, ils m'ont protégée. Ils lui ont dit, non, c'est plus la peine de téléphoner. Elle ne reviendra pas, c'est fini. Ma foi a été vraiment ébranlée, puisque je ne vais plus du tout à la messe. Et bon, ce qui est difficile, c'est que je vis dans la même ville et parfois je les rencontre. Ça peut être tout bête, hein. Je suis en voiture, hop, je vois, je reconnais de loin hein, cet habit. Bon, je me dis comment j'ai pu me faire avoir parce que j'ai perdu pas mes plus belles années, mais c'était les années de ma jeunesse, quoi, de 20 à 27 ans. Voilà, ils m'ont pris ces 7 années. En sortant de la communauté, quelques mois après, je me suis dit, mais ils m'ont pris mes 7 années, c'était en quelque sorte les faire payer un petit peu pour ce qu'ils avaient fait. Et j'ai voulu donc porter plainte au prud'homme, puisque les prud'hommes, c'est pour au niveau du travail non rémunéré. Et ça a été très très long. Il s'agissait de démontrer que tout le travail effectué, qui dépassait largement les 35 heures, hein, était au profit de la communauté, mais qui ne rémunérait pas. Le produit du travail n'est pas interne. C'est fait pour être vendu. Il y avait des cassettes qui étaient vendues d'enseignement. Donc là, on rentre un petit peu dans un lien commercial. Le produit du travail aurait été juste comme dans des congrégations religieuses, ils font leur potager, c'est pour nourrir les religieuses, ça, ok. Mais à partir du moment où si c'est pour élaborer un produit fini et pour le revendre et profiter économiquement voilà, du travail, là c'est du travail caché. Donc au final, je réussis à obtenir gain de cause. J'ai gagné 2 ans, voilà, 2 ans de salaire. Et puis surtout, au niveau moral, on se dit c'est comme une victoire. Maintenant, j'ai complètement tourné la page. Il m'arrive parfois de rêver, de forcer à demander pardon. C'est des cauchemars. C'est pas des rêves agréables. Et du coup, je suis contente quand je me dis ouf, c'était qu'un rêve. J'ai refait ma vie, mariée, avec des enfants. J'ai connu mon mari 2 ans après ma sortie. Donc j'étais en école d'infirmière. Un conjoint, on ne peut pas cacher 7 ans de vie. Et puis, par exemple, dans la vie concrète, il me parlait par exemple d'un groupe de musique. Je ne connaissais pas. Un film, je ne connaissais pas. Et puis, il m'a aidée, je ne sais pas pourquoi, quand je suis sortie. On garde des choses, des objets, par exemple la croix que je portais tous les jours, je l'avais gardée. J'avais gardé un habit dans un sac poubelle, mais je l'avais gardé au fond de l'armoire. Il m'a dit, mais si tu veux tourner la page, tu jettes tout à la poubelle. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que ça fait du bien.